Ferdinand, vous avez une question.
Il paraît qu'elle est très intelligente, cette question. Donc je vais le dire dans le micro. En quoi est-ce que le savoir-faire manuel serait plus propre à l'homme, puisque nous sommes quand même des êtres de raison et nous avons une intelligence? Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas utiliser cette intelligence et du coup partir plus dans les concepts?
La question... Vous avez compris que cette question, c'était un peu une mise en scène. Ce que dit Ferdinand, il faut le comprendre d'abord à partir de ce qu'il est, c'est-à-dire faisant des études d'ingénieur. Étant aussi aimant le travail manuel. Et donc la question, c'est de savoir si pourquoi est-ce que finalement j'ai l'air d'avoir une sorte de faire une critique de l'ingénierie et même de la séparer d'une certaine façon du travail manuel, puisque vous voyez c'est ce qui est en jeu. Alors je tiens à vous rappeler, je vous le rappelle encore une fois, de la même façon que je n'ai pas, ce cours n'est pas une critique, vous l'avez dit, un dénigrement de la technique, au contraire, c'est vous montrer à quel point elle est fondamentale, j'espère que je l'ai dit, je l'ai rappelé la dernière fois. Mais la deuxième chose, ça n'est pas non plus une manière de rejeter la technologie issue de l'ingénierie. Il ne s'agit pas de la rejeter. Il s'agit de montrer que la technologie contemporaine ne se situe pas sur la même ligne que la techné des anciens ou que l'artisanat, d'accord ? Ça, c'est le premier point. Vous voyez, il n'y a pas eu, parce qu'on utilise le même mot et on parle du progrès technique. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que d'abord, que la technologie est autre chose, elle n'est pas un progrès sur la même ligne. Ça, c'est le premier point, d'accord ? Le deuxième point, c'est qu'effectivement, et on en reparlera, il y a une différence entre le savoir-faire manuel qui ne passe pas par le détour, par exemple, de la connaissance de la physique des matériaux. L'artisan, il est en résonance affective aussi avec son matériau. Un luthier va écouter comment sonne le bois. Alors, je pourrais très bien partir d'une physique des matériaux, de la résonance des matériaux et faire des instruments de musique uniquement par ordinateur, comme le font très bien les Japonais d'ailleurs. Mais ce n'est pas pareil. Pourquoi ce n'est pas pareil? Parce qu'il y aura toujours ce détour par la numérisation. Vous remarquerez, hein, numérisation, même quand on n'avait pas d'ordinateur, on passait par des lois qui s'exprimait en termes mathématiques. Il n'y a pas ce détour par la numérisation dans le rapport artisanal. Et on est dans un savoir-faire qui est donc dans un ordre analogique. Et si on distingue le numérique et l'analogique, comme on le fait, vous savez, pour les objets, pour les machines qui produisent, les appareils qui produisent de la musique, vous savez que l'analogique se fait dans la continuité proportionnée de l'onde. L'onde forme quelque chose qui va être un matériau va porter la trace, et après, avec une tête de lecture, vous allez reprendre cette trace et reproduire l'onde à l'envers. Donc il y a une véritable empreinte de la chose même. D'accord ? Dans l'ordre sensible. Quand vous passez par une numérisation, il n'y a plus d'empreinte. On est dans la logique d'une conversion en chiffres, et après, par les chiffres, vous essayez de revenir, vous voyez, à du sensible. D'accord ? Donc, ça, c'est un procédé qui passe par un détour, qui est celui qu'on peut appeler la numérisation. Donc déjà, il y a cette grande différence, on ne passe pas par ce détour chiffré. Puis la deuxième chose, c'est que l'ingénieur, à cause de ça aussi, peut, à partir des chiffres, donner des modèles de fabrication qui fait qu'il ne travaille plus de ses mains. Un ingénieur n'est pas du tout obligé d'être un artisan. Le problème de la science appliquée, qui n'est pas le savoir-faire, c'est que c'est de la science, d'abord, et avec la science, je projette la fabrication d'une chose, mais l'application peut être faite par une petite main, un exécutant, etc. De telle sorte que vous avez, c'est très spécialisé, et souvent, voilà, l'électronicien, vous avez des gens qui travaillent vraiment à mettre les composants électroniques, mais ce n'est pas eux qui ont inventé le circuit. Parfois même, c'est des machines, d'accord. Donc, vous voyez. Donc, ça peut être directement même des machines. Et donc, il y a perte de la manualité. Alors là, pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que l'ingénierie ne serait pas même supérieure à l'artisanat ? Première remarque, les productions de l'ingénierie, sous un certain rapport, sont supérieures. Il y a des choses qui sont merveilleuses, qu'on n'aurait jamais pu faire comme ça à la main. Tout ce qui relève de l'aéronautique, tout ce qui relève... Vous voyez, c'est une évidence, hein. Donc, bien sûr, les productions. Mais la question, c'est, est-ce que c'est le travail le plus proportionné à l'homme ? Et ma thèse, alors là, c'est une autre chose, c'est pas du côté des productions, simplement. C'est du côté de ce qu'est l'homme. Alors, je rappelle qu'on est quand même dans une école d'anthropologie, donc c'est ça aussi notre question première. Eh bien, le travail proprement humain, c'est un travail qui implique l'intelligence avec les mains. Et c'est curieux, même si l'ingénierie vous permet d'avoir un meilleur salaire, enfin pendant pas très longtemps encore, et de produire peut-être des choses plus sophistiquées, malgré tout, elle est moins riche comme expérience humaine parce qu'elle vous fait perdre, voyez, cette dimension d'un travail qui assume à la fois l'intelligence et les mains, comme ça existe dans l'artisanat, comme cela existe dans les arts en général, hein, les beaux-arts en général. Sauf quand vous passez dans l'art conceptuel, qui est vraiment l'art de l'époque de l'ingénierie, si vous voulez. Bon. Voyez, où le corps est là, et où même la pratique du corps est tellement importante que les gens ont envie de venir voir comment vous faites, voyez, et se mettre autour de vous, et que toute une communauté, hein, va se créer, une communauté incorporée autour de l'acte, voyez, où le corps, où la main est là. Et ce que je laissais entendre, c'était une réflexion qui m'était venue récemment, parce que j'essayais de comprendre pourquoi il y a cette focalisation aujourd'hui sur le couple et sur le corps de l'autre, le corps sexué de l'autre, etc. Et un peu comme dans la chanson que vous avez entendue, là, qui s'appelle « Boire aux rivières », là, cette chanson... de nostalgie du paléolithique et où je dis que dans la cité de béton et de verre, il s'adresse à une femme, il dit « tu es pour moi le dernier végétal, mais aussi le dernier animal, mais aussi le dernier... » Vous voyez, et donc, d'une certaine façon, tout va se concentrer sur le corps de l'autre. On n'a plus de contact avec la nature, donc le dernier phénomène naturel qu'on a, c'est le corps de l'autre. Bon, on a un monde complètement artificialisé. Mais même... la dernière manualité qu'on a souvent, c'est sur le corps de l'autre qu'elle va se rabattre. Ça, c'est une chose assez effrayante quand on réfléchit. Mais peut-être que, vous voyez, c'est des ingénieurs qui ne cessent de concevoir des choses, des objets électroniques faits par les machines, et il leur manque, vous voyez, ce qui se passe avec les mains, qui est quand même quelque chose qui fait partie de la vie humaine. Où est-ce qu'on va trouver un refuge ou une compensation à cette perte du travail de la main ? Et donc, on a une sorte de phénomène de dissociation où, alors, vous avez la dissociation, vous savez ce que c'est, hein, c'est un phénomène lié au monde contemporain, c'est je ne veux pas monter les escaliers, je prends l'ascenseur, mais quand même, après, je prends l'ascenseur pour aller en salle de fitness où je peux faire du simulateur d'escalier. Voilà, ce qu'on appelle la dissociation. Dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas de salle de fitness. Parce que vous travaillez avec votre corps. D'accord ? C'est pas conçu comme ça. Vous voyez, si vous avez vraiment... Bah, si vous prenez tout le temps les escaliers, vous faites les trajets que vous aviez à faire, vous voyez. Mais là, vous prenez la voiture, et après vous dites, ah ben, quand est-ce que je vais marcher ? Quand il n'y avait pas la voiture, le problème ne se posait pas. Il n'y avait pas de jogging. Donc, les gens se déplaçaient en marchant très vite, en courant même parfois, vous savez, pour aller d'un village à l'autre, en portant les choses qu'ils avaient. Donc, il n'y avait pas cette dissociation. Le travail lui-même intégrait le corps. À partir du moment où vous êtes dans un travail qui vous enlève le corps, vous allez avoir des retours du corps sous des formes séparées et sous des formes anarchiques. Voilà ce que je pense, et que la perte du maniement a aussi des effets, je veux dire, sur la vie morale et sur, voilà, et sur la manière de voir la vie. Et c'est pour ça que je ne suis pas en train de disqualifier le travail de l'ingénieur. Je dis, attention, regardez bien ce qu'il est. Et la question, c'est que le travail vraiment humain, c'est un travail où on a encore besoin de la main. Et c'est ça, et on sent bien qu'il y a une sorte d'épanouissement dans un travail qui assume à la fois l'aspect, je dirais, intellectuel, relationnel et manuel. En ce sens, les maïlis de cette... de cette année, voilà, réalise parfaitement Agnès, voilà, cette chose-là. La sage-femme a un métier qui est le métier artisanal par excellence, selon Socrate, hein, la maïotique, et le modèle de la vie intellectuelle. Sauf que les pauvres sont prises dans des services d'orthogénie. Où en fait, et en plus, on leur interdit de faire vraiment leur métier, et on leur apprend que finalement, si elles ont des mains, c'est même pas pour étouffer le nouveau-né à la sortie, parce que ça encore, ce serait un travail manuel, mais éventuellement pour donner de la chimie pour qu'il meure in utero. Vous voyez, alors que si au moins elles avaient encore l'exercice de l'étranglement, bon, il y aurait une certaine satisfaction, mais même pas, quand on leur retire même cela. Je voudrais reprendre deux choses. D'abord, la première, c'est que c'est cette importance de la matière, dès lors, du matériau. Je vous ai mis un texte d'Étienne Gilson dans Matière et forme, un texte vraiment très beau. Gilson est bien sûr un lecteur d'Aristote et de Thomas d'Aquin, et donc c'est dans la continuité de leur pensée qu'il écrit ce texte. Voilà ce qu'il écrit. Puisque la matière qu'il travaille n'est pas la matière première des métaphysiciens. Vous savez que la notion de matière pure, matière première, c'est une notion, c'est une abstraction philosophique. Une matière qui serait en potentialité à tout, une matière qui serait sans forme. Ça n'existe pas. Toutes les matières que nous trouvons dans la nature sont des matières qui sont des matériaux, donc qui ont une forme. Il y a une forme du bois, il y a une forme du marbre, il y a une forme du porphyre, c'est pas pareil. D'accord ? Donc on est face à des matériaux qui sont pas de la pure matière qu'on peut tirer dans tous les sens, mais qui ont déjà leur détermination formelle. Le matériau, c'est un composé de matière et de forme, c'est pas une pure matière. Il y a donc une forme. Et c'est ça le point fondamental d'ailleurs, hein, c'est que beaucoup plus que l'ingénieur, l'artisan est face à un monde de forme. Il reste toujours dans le monde de forme. Il ne décompose jamais la matière en éléments. Vraiment, il est face à une matière, il reçoit le matériau dans sa forme donnée. Il ne décompose pas la matière en éléments quantitatifs, chiffrables. Il est vraiment face à un matériau donné avec sa forme sensible, et c'est à l'intérieur, vous voyez, de cette analogie, je vous l'ai dit, dans la proportion à la forme sensible qu'il agit. Et pas à partir d'une conversion en éléments chiffrés. Donc, la matière que travaille l'artisan ou l'artiste n'est pas la matière première des métaphysiciens, mais bien quelques substances déterminées par sa forme. L'artiste qui en use comme d'une matière, par conséquent, est obligé de tenir compte des déterminations formelles, naturelles, dans l'usage artistique qu'il en fait. Le sculpteur peut choisir de travailler le bois, la pierre ou le marbre. Sa liberté est entière à cet égard, mais sa décision, une fois prise, son art devra respecter les conditions imposées par la forme naturelle de la matière sur laquelle il aura choisi de s'exercer. Vous voyez ? L'art doit respecter les conditions imposées par la forme naturelle, parce que ce sur quoi il travaille, ça n'est pas la matière, c'est telle substance, avec ses déterminations formelles. Cette détermination va plus loin. Michel-Ange est libre de faire tout ce qu'il est possible de faire avec du marbre, Supposant donner un bloc de marbre de cette taille, de cette forme, de ce grain et de cette couleur. De là naissent dans l'exécution, et écoutez bien cette remarque, très importante, qui marque aussi la différence entre l'ingénierie et le savoir-faire manuel. De là naissent dans l'exécution, pas dans la conception, dans l'exécution même, des échanges incessants entre la matière de l'œuvre et les opérations de l'artiste, qui s'en inspire pour inventer les formes qui lui conviendront le mieux. Ça, c'est très étonnant. Je suis face à un bloc de marbre. C'est pas le marbre que j'ai en face de moi, c'est tel bloc, avec ses déterminations, avec son veinage précis, avec ses lieux peut-être de plus ou moins grande résistance, etc. Donc à chaque fois, j'avais peut-être une idée en moi, à partir de ma première vue, mais en travaillant même le marbre, il y a un retour du marbre sur mon opération, vous voyez ? Et je vais toujours ajuster mon geste, corriger, modifier mon idée première, m'adapter à ce que me propose le matériau. Vous avez remarqué, c'est pas des échanges. Vous pouvez dire, dans l'ingénierie, bien sûr, il y a des échanges incessants aussi. On fait une expérimentation, ça marche pas, on corrige. Vous êtes d'accord ? Mais c'est des échanges qui se font entre l'exécution et la conception. Là, c'est un échange qui se fait au sein même de l'exécution. Vous voyez, à travers le travail manuel. Parce que l'intelligence étant dans la main opérante, elle peut, tout ce qu'elle reçoit, elle peut aussi corriger son acte en fonction. Vous voyez la différence ? Et vous avez eu cette phrase de Gilson, des échanges incessant entre la matière de l'œuvre et les opérations de l'artiste qui s'en inspire pour inventer les formes qui lui conviendront le mieux. Vous voyez cette phrase incroyable. L'homme, là vous avez une sorte de, apparemment, une contradiction pure dans les termes. Le contraire de spirituel, normalement, c'est matériel. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, il s'inspire de la matière. L'artiste s'inspire de la matière de l'œuvre. Parce que la matière de l'œuvre est un matériau formé et il doit se mettre tout le temps à l'écoute s'il veut vraiment faire la forme qui est la plus adaptée à ce matériau et s'il ne veut pas briser ce matériau en le forçant. Vous voyez ? Et ça, c'est un point très important. C'est vrai pour le poète, c'est vrai pour l'écrivain. Quel est son matériau ? C'est la langue. Mais la langue, voyez bien que c'est un matériau hyper déterminé. Alors souvent, vous partez avec une idée en tête pour écrire, et puis tout d'un coup, si vous êtes un écrivain et pas un simple écrivant qui utilise la langue comme une sorte de pur moyen d'exprimer une pensée, voyez, soi-disant une pensée qui serait d'ailleurs et qui existerait en dehors des mots, enfin je ne sais pas, mais bon. Mais si vous êtes vraiment un écrivain, ce qui se joue, c'est qu'au moment où vous écrivez, les mots vous disent quelque chose et vous êtes dans cet échange incessant avec la langue telle qu'elle est donnée. Et tout d'un coup, ce que vous aviez pensé, vous allez être guidé vers autre chose parce que la langue a ses propres déterminations. Vous voyez ? Et elle va vous entraîner quelque part que vous n'aviez pas anticipé. Comprenez ? Bien sûr qu'il y a vous vous souvenez, on avait dit qu'il y a conception et exécution dans l'art. On conçoit, puis après on exécute, à la différence des bêtes. Mais c'est après dans un ordre logique, mais ce n'est pas dans l'ordre chronologique, parce que souvent c'est au sein même de l'exécution que la conception se révise elle-même, se rajuste elle-même en fonction du donné, du matériau, en fonction des premières formes, vous voyez, qu'on a du début de la formation qu'on a mise, mais tout d'un coup le matériau réagit et alors il vient nous inspirer et corriger la conception première que nous avions. Et là, ça se fait par cet échange physique, cet échange manuel. Voilà la techné hein, pour les anciens, c'est ça. Respect du matériau. En tant que déterminée par sa forme naturelle, la matière même exerce une action positive déterminante à laquelle l'artiste ne peut rester insensible. Et voilà comment il conclut, hein. Quand le sculpteur se demande d'un marbre s'il sera dieu, table ou cuvette, le marbre a son mot à dire. À sa manière, il parle le premier, il annonce sa vocation. Vous voyez, le marbre a son mot à dire. Je ne suis pas dans un rapport... C'est étonnant parce que Thomas d'Aquin va distinguer vous avez un rapport aux choses qui serait un rapport despotique et un rapport qui serait politique. Il dit, par exemple, le sculpteur a un rapport despotique à la matière, hein, il impose la forme qu'il avait vue. En revanche, quand on doit gouverner nos passions, c'est pas comme un sculpteur, c'est un rapport qui est politique. Parce que nos passions, nos émotions, elles sont là, et on doit, toujours traquer ces malades, traiter avec elles, négocier avec elles. Et c'est ça la vraie morale, c'est pas j'essaye de l'imposer par force, parce que c'est en moi, et quand j'essaye d'aller par force, soit je refoule, soit ça revient sous des formes perverses, soit je suis submergé. Il faut reconnaître une place. Vous voyez, vous avez une émotion, une chose, vous savez qu'elle n'est pas entièrement bonne, vous dites, mais d'abord, je dois reconnaître qu'elle est là, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, pourquoi est-ce que je l'ai, et quel est son véritable aboutissement. Souvent, c'est ça le problème. Donc, je suis dans un rapport politique, mais en réalité, si vous regardez la notion même de sculpture telle qu'elle est présentée ici, ce n'est pas despotique. C'est pas, en tout cas, ça n'est pas un geste purement despotique. Vous voyez, il y a bien une écoute du matériau. Il y a... si le matériau a son mot à dire, vous voyez, je ne suis pas un despote qui impose ma loi, je l'écoute. Et l'art artistique est un acte... qui serait donc aussi politique, vous voyez, de ce point de vue-là. Métaphoriquement, hein, bien sûr, j'entends. Oui. Donc, je respecte le matériau. Alors, pour conclure ce point, vous voyez, on passe du temps sur ces textes parce qu'on est vraiment au cœur, hein, ici, de la doctrine des anciens. Donc, il faut passer du temps, il faut travailler ces textes, il faut les retravailler. Même là, on va trop vite. Mais pour conclure, je voudrais justement finir sur ce mot « materia ». Alors, ce qu'on emploie comme mot, plutôt en français, c'est matière, qui vient du latin materia, qui lui-même est une traduction du grec hulé. Alors, vous savez, la doctrine selon laquelle tout est composé dans la nature de matière et de forme, c'est ce qu'on appelle l'hylémorphisme, chez Aristote, hein, donc terme technique. Morphé, c'est la forme, hulé, c'est la matière. Or, c'est très intéressant de regarder l'origine des mots, parce que ce mot matière, qu'est-ce qu'il veut dire étymologiquement? À quoi renvoie-t-il? À quel type de matière? Est-ce que c'est une sorte de matière indéterminée, un ensemble d'éléments, comme on le verrait aujourd'hui, hein, comme une certaine science voudrait le voir, des éléments que je peux recombiner à ma guise, des lois que je peux maîtriser et dominer d'une certaine façon. Obéissant à ces lois, je suis capable de transformer la forme qui est devant moi. Ah, ça, c'est le modèle scientifique contemporain. De telle sorte que la matière est pensée comme un ensemble d'éléments qui n'est pas comme tel formel. Je peux toujours faire de nouvelles formes en combinant autrement ces éléments. Et surtout, la matière n'est pas vue comme elle-même liée à un dynamisme de formation. Or, si vous regardez la manière ancienne d'entendre ces mots, hulé, ça renvoie au bois. Et materia désigne chez les Latins, exactement comme chez les Grecs, et même avec une certaine force profonde, le bois qui est à l'intérieur des arbres. Non pas l'écorce, mais la materia, c'est vraiment l'intérieur de l'arbre, ce dont on va faire justement des objets, des meubles, des planches, voilà, en bois. Donc, la notion de matière est pensée chez les anciens en continuité avec le dynamisme naturel de la pousse des arbres. La matière n'est pas un pur... une pure matière informe, elle est liée à la formation organique du végétal. Et dès lors, quel est le sens de l'acte artistique? C'est de prolonger, voyez, la formation naturelle. de l'imiter, de l'accompagner, de la prolonger. Le matériau n'est pas un ensemble d'éléments et d'énergie que je manipule. C'est, vous voyez, le fruit d'une formation naturelle. Et je reconnais qu'il y a cette formation naturelle et mon acte artistique s'inscrit dans le dynamisme de cette formation naturelle. Le bois est un matériau très spécifique parce que c'est un matériau qui justement a son mot à dire, le bois et la pierre. Ça n'a rien à voir avec, Charles Péguy parle de la matière ancienne et de la matière moderne. C'est des matières qui sont toutes les deux anciennes et toutes les deux modernes à la limite, mais c'est la manière de voir la matière qui va changer. Et il dit la matière ancienne, c'est le bois. Et dès lors, vous voyez, on est dans ce lien avec la nature, avec la forêt, avec la pousse, et l'art artistique ça s'inscrit en continuité avec cela. Et il dit le matériau moderne, c'est le fer, c'est le métal, et c'est quoi? C'est une matière qui est coulée. Elle est coulante. Elle n'a pas sa forme propre. Elle n'a plus son dynamisme propre. Je la coule et je la mets dans n'importe quel moule, et je peux la mouler comme je veux. C'est intéressant, hein? Quel est dans mon imaginaire l'imaginaire que j'ai de la matière? Quand je dis le mot matière, est-ce que je vois quelque chose de complètement liquide, si vous voulez, auquel je peux imprimer n'importe quelle forme? C'est ça la matière des modernes, selon Charles Péguy. C'est dans un texte qui s'intitule « Deuxième élégie 30 ». L'élégie 30 étant le poème de Ronsard contre les bûcherons de la forêt. Grand poème de Ronsard sur la destruction d'une forêt par des bûcherons royaux. Il y a une défense de la forêt contre le défrichage systématique de la France. Si vous voulez. C'est une époque très particulière qui est la naissance même, on pourrait dire, de la langue française classique. Alors, c'est intéressant qu'elle se joue à l'intérieur de cette confrontation. Et donc, Péguy écrit une deuxième élégie 30 contre les bûcherons de la forêt. Et donc, il va dire, voilà, si votre matière, c'est le fer, le métal, voyez, vous le coulez comme vous voulez, etc. Ah bah oui, là, d'accord, c'est facile. Vous avez cette vision de la matière qui est liée à « j'en fais ce que je veux ». « Je la moule comme je veux ». Qui dépend que de mon moule. Mais si c'est le bois, voyez, c'est pas la matière en fusion, la matière coulante, la matière de la métallurgie, mais la matière organique en lien avec un phénomène vivant, et donc qui doit respecter ce phénomène vivant, c'est même sa condition d'être, puisqu'il faut qu'il y ait des arbres pour que je puisse continuer à travailler le bois, eh bien, là j'ai une autre vision de la matière. Je n'en fais pas n'importe quoi et je m'inscris dans son dynamisme. La matière n'est pas vue simplement comme pure matière, mais aussi comme ayant son dynamisme formel et je l'accueille aussi comme forme qui m'indique quelque chose, qui a son mot à dire. Vous voyez, et ça, c'est contenu dans le mot grec « hulé » qui servira à désigner toute matière. Mais quand vous désignez toute matière chez les Grecs, vous pensez d'abord au bois. Materia chez les Latins, quand vous désignez toute matière chez les Latins, vous pensez d'abord au bois. Vous ne pensez pas à une matière coulante, vous ne pensez pas à des éléments que vous pouvez combiner à votre guise. Vous pensez à une matière qui a une origine vivante, de telle sorte que votre acte artistique va s'inscrire dans le dynamisme de la vie.